RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Vous êtes plutôt carte ou GPS? Bon, on va pas se mentir, c'est dur d'imaginer un jour reprendre une carte entre les mains pour se repérer sur la route des vacances, surtout quand on a de super outils comme Waze ou Google Maps. Alors ce matin, dans Je pense donc j'agis, on va tenir à Paris, on va quitter nos GPS et on reprend les cartes en main. Les cartes qui montrent les routes, certes, mais qui représentent aussi le monde sous différentes formes. On vous propose donc une petite leçon de cartographie pour vous donner des clés de lecture sur les cartes. Et puis, notez que dans la seconde partie de l'émission, on ne se rendra pas sur les routes, mais sur les sentiers de randonnée pour les vacances avec des associations qui les entretiennent et qui organisent le balisage. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus, sans vous perdre, si possible, avec vos réactions et vos témoignages. Est-ce qu'il y a des cartes qui vous fascinent plus que d'autres? Est-ce que vous sortez encore vos cartes routières? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Est-ce que vous aimez prendre le temps de regarder certaines cartes? On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vos messages par mail direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Et pour la dernière fois cette semaine avec Stéphanie Gallet, rédactrice en chef culture et société. Bonjour Stéphanie.
Eh oui, bonjour Melchior, bonjour à tous. Aujourd'hui, à quelques jours des vacances et des grandes migrations estivales, nous vous proposons donc de cesser de nous faire mener par le bout du nez par nos GPS. C'est un geste très simple, Melchior. Hein. On arrête d'avoir la tête baissée sur nos portables, on redresse la nuque et on regarde loin devant. Bref, fini la soumission au GPS, nous allons redevenir des femmes et des hommes libres. Enfin, encore faut-il savoir lire une carte, comprendre qu'elle n'est qu'un outil subjectif pour représenter le monde et que bien sûr, cette histoire de GPS est une image, car il n'y a pas que des cartes routières. Si pour certains, les cartes de géographie évoquent de lointains souvenirs de primaire où il fallait placer sur des cartes muettes, fleuves et préfectures, les cartes sont aujourd'hui des outils très utiles pour représenter non seulement le monde, mais les grandes questions économiques, politiques et sociétales. Qu'est-ce finalement qu'une carte de géographie? Quels sont ses pouvoirs? Qu'est-ce qui se joue dans le tracé d'une frontière ou la couleur d'un aplat? Eh bien, on voit tout ça dans cette émission, sans oublier, Melchior, la force poétique des cartes de géographie, leur imaginaire puissant. Car contrairement à ce que disait un géographe très célèbre, Yves Lacoste, la géographie, ça ne sert pas qu'à faire la guerre. Leçon de cartographie donc ce matin dans Je pense donc j'agis pour se libérer du GPS et surtout retrouver le goût des cartes.
Pour en discuter dans cette émission, Stéphanie, on a le plaisir d'accueillir deux invités.
Oui, deux cartographes passionnés, Jean Leveugle et Neptice Vert. Jean Leveugle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes géographe et vous êtes aussi auteur de bandes dessinées de vulgarisation scientifique. Et si on vous a invité ce matin, c'est que vous venez de publier, c'était il y a quelques mois, aux éditions Autrement, un livre qui s'appelle « Curiosité cartographique ». Et c'est souligné « carte ». Pas si absurde et un peu bizarre. Alors, vous nous dites quel est le propos de ce livre et après on parlera de la couverture.
C'est un livre d'humour cartographique, c'est-à-dire que l'objectif c'est de, avec humour, de travailler sur des cartes qui sont assez simples pour faire, disons, prendre conscience aux lecteurs et lectrices, effectivement, tout ce que vous évoquiez en introduction, c'est-à-dire à la fois les conséquences que peuvent avoir les cartes, leur caractère performatif, et puis tout ce qui peut se cacher derrière tous les choix qui reposent et qu'on fait quand on construit une carte.
Alors, vous nous racontez le dessin qui est en couverture de votre livre. C'est une histoire d'orange qui n'est pas bleue.
C'est ça. Alors donc, c'est une histoire d'orange. Alors l'orange. Alors pourquoi l'orange? Je commence comme ça parce que c'est à mon sens et je crois que c'est l'exemple le plus utilisé pour expliquer une question assez complexe. Alors je vais essayer de faire ça court. C'est la difficulté qu'on a nécessairement à passer d'une sphère, c'est-à-dire la Terre, à une surface plate, c'est-à-dire une carte. Comment transférer une sphère sur une carte, sachant que la sphère on ne peut en voir qu'une partie quand on la regarde, on voit pas ce qu'il y a derrière, alors que la carte nous permet d'avoir un œil entier sur l'ensemble du monde. Et l'image qu'on utilise le plus souvent, c'est l'image de l'orange. On dit, prenez une orange, imaginez que c'est la Terre, essayez de l'éplucher, vous allez voir, vous n'obtiendrez pas une carte en étalant la peau à plat. Vous allez avoir un espèce de ramassis de bouts d'orange, même si vous faites ça bien, ça n'aura pas de sens, ça vous sera pas très utile. Et en fait, la couverture, c'est cette idée-là, c'est-à-dire qu'une orange épluchée, ça donne un tas d'oranges, ça donne pas une carte.
Voilà. Voilà pour entrer en matière. Merci Jean Leveugle d'être avec nous ce matin. Autre invité, je l'ai dit, Neptis Vert, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes historienne de la culture et vous venez de publier un livre qui s'appelle « Cartographie radicale » et c'est sous-titré « Exploration » avec un S. C'était aux éditions La Découverte. Alors avant de parler de votre livre, et on parlera aussi de la couverture, comment est-ce qu'on passe de l'histoire à la géographie? Moi je crois que c'était deux écoles bien étanches et qu'on faisait pas vraiment la même chose avec la géographie et avec l'histoire, même si souvent on fait la guerre. Mais bon, c'est pas grave.
Voilà, oui. Alors, histoire et géographie sont indissociables en réalité. Il suffit de lire Élisée Reclus. La carte, elle va montrer ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe sur Terre. Moi-même, je suis germaniste, historienne de la culture des pays de langue germanique et j'ai travaillé sur les théories économiques et sociales d'Otto Neurath, un philosophe et économiste, philosophe du cercle de Vienne, qui a développé un système de représentation de données socio-économiques par des petits symboles, qu'on dit pictogrammes. Donc c'est l'isotype qui est constitué en grande partie de cartes, des cartes qui ont la particularité de s'exonérer du fond de carte. Vous avez des diagrammes, en fait, des représentations graphiques qui jouent du fait que dans votre tête, il y a une carte. Nous sommes tellement familières et familiers des cartes que nous n'avons pas besoin de représenter le contour des continents pour avoir immédiatement à l'esprit la disposition des différents pays et régions quand vous évoquez leur nom, par exemple. Voilà, donc ça m'a amené à la cartographie. À la cartographie radicale, j'ai écrit ce livre avec Philippe Recasseri.
Alors qu'est-ce que c'est la cartographie radicale?
Alors entrons dans le vif du sujet, on peut discuter de la terminologie. Selon le pays, selon la langue, vous parlerez de cartographie critique, de contre-cartographie, en anglais counter-cartographie, en allemand kritische cartographie. Cartographie sociale, cartographie participative, cartographie citoyenne. C'est un type de cartographie, ce n'est pas une branche de la cartographie, c'est un phénomène inofficiel, si vous le voulez. C'est une reprise en main par la société civile de l'outil cartographique. Donc on peut, par les nouveaux moyens technologiques, par le numérique, faire des cartes soi-même, mais l'objectif, c'est plutôt d'analyser, c'est ce que fait notre livre, ce qui se passe au moment de la création cartographique. Nous partons de la conception, allons jusqu'à la réception de la carte, que fait-elle en tant qu'objet social? Mais vous, en tant qu'usagère ou usager des cartes, pourquoi rester usagère et usager passif des cartes? Vous pouvez les créer vous-même. Et notre propos, celui de la cartographie radicale ou critique, c'est de réintroduire l'humain derrière la carte et sur la carte.
Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la couverture de votre livre « Cartographie radicale ». Au début, j'ai pas compris. Et puis, je suis rentrée dans le livre et là, j'ai fini par comprendre. Alors, expliquez-nous pour les auditeurs, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, vous voyez une forme assez, assez chantournée, une silhouette rose, un dessin au crayon de couleur, en fait, avec une ligne qui zigzague, qui part dans tous les sens, qui forme des silhouettes assez curieuses. Et c'est une œuvre de mon co-auteur, donc Philippe Recasseri, qui l'a appelée l'enclave. Elle date de 2016. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la représentation d'un pays fictif, bien sûr, qui ne serait pas une utopie, mais plutôt une dystopie. Mais même pas, ce pays existe, ces pays existent. Ce sont ces pays où on a conçu les frontières comme des séparations. On a une acception de la surface de la Terre comme territoire. À partir d'une carte, vous pourrez tracer des lignes et vous les reporterez dans le paysage au défi de la réalité, de la pratique de l'espace. Et cette frontière ici, elle a ses formes illogiques. Pourquoi? Parce qu'elle contourne des éléments. Et l'exemple pratique que je pourrais fournir, c'est celui du mur qui sépare Israël et la Palestine. Ce mur par endroit, je connais un endroit près de Bethléem où ce mur entoure une maison sur ses trois côtés. Elle est enclavée. Donc, vous avez des enclaves, vous avez des exclaves. c'est-à-dire des endroits coupés de leur territoire mère, si vous voulez. Et ici, vous avez ce qui ressemble à une île, qui est en fait un endroit clos d'un mur ou d'une frontière imperméable, en théorie, et où les routes de connexion passeront, par exemple, en dessous, sous ce territoire, ou alors elles s'arrêteront à un endroit face à un mur. Voilà, donc c'est une réalité. Cela existe bel et bien, et comme notre propos c'est de déconstruire le fonctionnement de la cartographie, il nous semblait important de montrer ce que la carte peut faire. Nous demandons ce que la carte peut faire, où réside son pouvoir. Nous allons analyser ceci.
Et ça, on va pouvoir en parler dans l'émission, bien sûr, ce matin. Merci à tous les deux de nous accompagner jusqu'à 10h. Et je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23, par mail également à direct@rcf et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Daniel nous a rejoint déjà pour ouvrir l'émission. Bonjour Daniel.
Bonjour.
On vous écoute.
Eh bien, personnellement, voilà, je randonne, je voyage à cheval en Bretagne.
Oui.
Des petites périodes de 4, 5, 6, 8 jours. Et j'utilise beaucoup la carte d'état-major au 25 millième parce que bivouaquant en route, elle me permet d'économiser ma batterie de iPhone. Et même, j'ai même un chargeur pour pouvoir recharger ma lampe frontale et ce téléphone. Et la carte d'état-major, j'ai l'impression de survoler le chemin que je parcours, la carte au 25 millième. C'est-à-dire qu'elle m'indique la qualité d'un chemin, si c'est un sentier, si c'est une route. Les courbes de niveau m'indiquent s'il y a une pente à gravir, et selon leur écartement, si elle est raide ou pas raide. Ça m'indique les points d'eau, les fontaines, les cimetières où je peux aller remplir mes bidons d'eau. Ça m'indique aussi les différents villages, leur grosseur, la qualité de la végétation que je traverse, si c'est un bois, une futaie, si c'est une lande, si c'est, ce sont des cultures. Donc j'ai l'impression d'être un oiseau ou un drone qui me survole et je vois le paysage de haut au fur et à mesure que j'avance.
Et ça vous guide parfaitement ?
Ah, ça me guide parfaitement. Maintenant, il est facile, sur cette carte, je rajoute des petites indications au stylo, des endroits où je peux bivouaquer, des numéros de téléphone de gîte ou d'amis qui sont sur place, je peux appeler en secours. J'indique par une petite flèche un hameau où il y a une épicerie pour se ravitailler, une coopérative où il y a du grain. Donc, je suis un fan des cartes au 25 millième. Que je transporte dans une pochette, grande pochette transparente accrochée à ma selle et que je regarde de temps en temps au fur et à mesure que j'avance.
Et, voilà. Et on note que vous rajoutez également des informations. Finalement, vous faites aussi un peu votre propre carte. Jean Leveugle, vous nous rappelez ce sont ces cartes d'état-major au 25 millième ?
Alors, ce sont des cartes qui ont été créées à partir du 19e siècle, de mémoire du 19e siècle et qui sont elles-mêmes issues des cartes de Cassini, qui sont donc du siècle précédent, qui sont elles-mêmes issues d'un procédé technique qui s'appelle la triangulation, qui a permis la triangulation d'avoir des cartes, toujours dans cette recherche de la précision la plus ultime, d'avoir des cartes qui soient toujours plus précises et exactes. Et je trouve que les propos de l'éditeur, d'ailleurs, confirme bien la parfaite Daniel. Exactitude, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on a ces cartes qui sont extraordinaires de précision et on en est presque arrivé au bout. Et alors je serais presque un peu provocateur, mais j'allais dire d'abord je vais faire le lien entre les propos de Madame Zwer et de l'auditeur. La cartographie radicale, la cartographie critique, je trouve qu'elle est tout à fait intéressante parce qu'elle réouvre un peu le champ des possibles en termes de cartographie et qu'elle opère ce que j'appellerais une forme de réenchantement cartographique. C'est-à-dire que j'évoquais là à l'instant les cartes de Cassini, puis les cartes d'état-major, et qui sont, quand on les regarde dans l'ensemble de l'histoire de la cartographie, c'est-à-dire tous les types de cartes à travers le monde, les régions et les époques, on pourrait presque dire que ces cartes-là sont paradoxalement d'une grande pauvreté. Alors je le dis avec beaucoup d'humour, mais parce qu'elles sont extraordinaires quand il s'agit de faire exactement ce que décrivait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire de faire de la randonnée. Et en même temps, elles sont devenues des objets extrêmement techniques, extrêmement précis, mais qui ont perdu, on pourrait le dire comme ça, entre guillemets, d'autres aspects, alors même s'ils sont sous-jacents, mais des aspects politiques, philosophiques, critiques, religieux, etc. Et il suffit de regarder par exemple une carte du Moyen-Âge. Alors bon, Moyen-Âge, 1000 ans, hein, je prends une période un peu large, j'en conviens, mais pour se rendre compte que la carte du Moyen-Âge ne vise pas du tout à cette précision géographique extrême. Au contraire, c'est presque secondaire. Ce qui importe, c'est plutôt la création d'un récit collectif, la mise en lumière de mythes religieux, d'idées philosophiques, de découvertes, quelque part parfois techniques. Et en fait, vous avez une carte qui est un objet extrêmement, extrêmement curieux, qui raconte une société, les grands enjeux, les grands rapports qu'elle entretient avec le monde et avec les régions du monde. Et toutes ces dimensions-là, par exemple, on les a perdues, entre guillemets, quand on réatterrit sur des cartes type état-major.
Jean Leveugle, vous dites ça, mais alors ce que j'ai pas précisé aux auditeurs, c'est que vous, comme les petits verts, vous n'êtes pas avec moi en studio, ni avec Melchior, vous êtes l'un du côté de la Bretagne et l'autre du côté de l'Alsace, mais je vous vois, parce qu'on a des écrans, et tous les deux, hein, vraiment tous les deux, quand on écoutait un autre auditeur parler de la carte d'état-major, vous aviez les yeux qui brillent. Donc là, vous nous dites que c'est trop technique, qu'elle a perdu de la poésie, etc., mais en même temps, j'ai quand même l'impression que c'est des très belles cartes, les cartes d'état-major, Jean Leveugle.
C'est des très belles cartes, ça, à n'en point douter. Et puis on fait
j'ai tort quand je disais que vous aviez les yeux qui brillent.
Non, pas du tout. Non, c'est vrai. On apprécie toujours les avoir, et c'est vrai que parce que j'aime en particulier, c'est ce que décrivait votre auditeur tout à l'heure, c'est la possibilité de les amender. Enfin voilà, je trouve ça toujours intéressant de se rappeler aussi ce qu'on a fait ou par où on est passé, et puis ce qu'on a vu, etc. Puis éventuellement de se noter des choses pour la prochaine fois.
Neptisver, une réaction sur la carte d'état-major?
Oui, je l'opposerais au GPS, en fait. Est-ce que vous êtes passive ou active face à une carte? Si vous pouvez la prendre en main, j'aime bien cette idée, la noter effectivement. Et surtout, vous avez une vue d'ensemble du paysage. Alors que dans votre GPS, lui, il va vous proposer un couloir qui vous permettra d'aller de A à Z. Et c'est un appauvrissement dramatique de notre rapport à la carte, et une perte d'autorité face à elle. Vous vous soumettez à des algorithmes.
Alors, Melchior disait à notre auditeur qu'il devenait lui aussi un peu cartographe en annotant sa carte d'état-major, en l'annotant à la main. Et je voudrais évoquer avec vous un des points communs entre vos travails, c'est le rapport au crayon et à la main. Jean Leveugle, les cartes qui sont présentes dans votre livre, vous les avez fait à la main, pas de logiciel là-dessous? Pourquoi?
Alors, je pourrais vous trouver des arguments tout à fait intéressants. La réalité, c'est que je maîtrise pas les logiciels. Voilà, donc quand ça commence par ça, vous l'avez rappelé, moi je suis auteur de bande dessinée. Donc mon travail, c'est quand même surtout d'utiliser un crayon ou un stylet, hein, parce que les cartes, en l'occurrence, de curiosité cartographique, sont des cartes faites à l'ordinateur, mais avec un stylet, c'est-à-dire qu'on dessine avec. Non, c'est voilà une maîtrise absolument nulle des logiciels de cartographie et des SIG, parce que voilà, je pense que j'ai pas bien suivi les cours à l'époque et j'ai perdu un peu la main depuis.
Mais en même temps, c'est pas anodin de retrouver le crayon.
Non, parce que les cartes. Les cartes que j'ai pu mettre dans cet ouvrage-là n'ont pas besoin d'être faites via des logiciels, puisque le propos n'est pas justement l'exactitude dont je parlais, mais ce sont des messages, en fait. Ce sont des messages soit humoristiques, soit politiques, soit artistiques, mais qui n'ont absolument pas la nécessité de cette exactitude-là.
Neptisver, vous avez fait un cheminement, vous êtes éloigné des logiciels, non pas parce que vous les maîtrisiez pas, mais parce que vous trouviez qu'il y avait des effets, vous en avez toujours parlé, et puis vous êtes revenu au logiciel, expliquez-nous.
Voilà, alors là, c'est une démarche initiée par Philippe Rekasevich, qui, lui, dans les années 90, sont apparus ces logiciels de dessin vectoriel. qui ont provoqué un véritable engouement et qui quelque part ont figé la sémiologie que vous allez utiliser, qui ont cadré votre fantaisie. Et lui, il est revenu au crayon tout simplement parce que si vous considérez le processus de création cartographique, au début, vous avez une image de pensée, vous formalisez, vous avez traité vos données, bien sûr, vos bases de données, et ça, c'est une étape essentielle, mais vous allez formaliser l'image qui vous est apparue, et vous allez la crayonner, vous allez la dessiner sur le papier. Après, vous la transposerez en numérique. Bien sûr, on peut utiliser un stylet, mais l'idée sous-jacente, c'est de réintroduire toute la subjectivité inhérente aux cartes. Nous vivons sur le fantasme de la carte qui serait une image fidèle, analogique de la réalité. Cela n'existe pas. Comme Jean le disait, une projection d'un objet sphérique sur un objet plan, ça ne fonctionne pas sans distorsion, sans mensonge. Et il est important pour nous de montrer que cette image, c'est la vôtre, c'est celle que vous avez du monde. Donc pourquoi cacher votre présence en tant que cartographe sur la carte ? Il y a une certaine hypocrisie à cela. Donc montrer que vous avez dessiné la carte, qu'il y a un trait de crayon, que ce n'est pas parfait, il faut l'assumer. Et c'est aussi un message politique. D'un autre côté, il ne faut pas faire fi du numérique, de tous ces outils. Bien sûr, nous y recourons. Nous sommes en train de travailler sur des cartes et nous utilisons le numérique. Pourquoi ? Parce qu'il permet déjà une réception plus grande de votre travail et aussi parce qu'il permet un accès libre en cartographie critique ou radicale. L'un des grands principes, c'est que toutes les sources doivent être mises à la disposition de tout le monde. La carte devient un objet commun et partagé.
Alors, dans cette émission, je vais vous proposer à plusieurs reprises de faire un exercice de cartographie radiophonique, donc de nous proposer des cartes ce matin. Alors, la première carte que je vais vous demander de nous raconter, de nous dessiner à l'antenne, ça serait peut-être la carte du jour. Nous sommes le mardi 28 juin 2022. Si vous aviez une carte à dessiner, quelle serait-elle ? Et je commence peut-être par vous, Jean Leveugle.
Alors, avec plaisir. La carte que je dessinerai aujourd'hui, je pense qu'elle serait liée au résultat des élections législatives. Parce que c'est toujours des moments intéressants, parce que notamment, moi j'adore les élections, parce qu'on voit quand même beaucoup de cartes apparaître sur les écrans, dans les journaux, etc. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est que ce sont des cartes qui sont éminemment politiques, étant donné le sujet, et qu'elles sont surtout à utiliser comme si le support utilisé était neutre. Et on va dire, voilà, exempt de toute suspicion. Et ce que je trouve intéressant sur les cartes des résultats des élections législatives en particulier, c'est que le choix est fait d'utiliser les circonscriptions pour représenter les résultats. Alors, si vous prenez la carte, par exemple, du premier tour, des résultats du premier tour, la plupart des cartes montrent le candidat ou la candidate arrivée en tête, et donc par un aplat de couleurs à l'échelle des circonscriptions. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir choisi les circonscriptions comme élément à représenter, qui est un élément spatial, la circonscription, alors qu'elle est définie plutôt par un paquet de populations. Hein, et ce qui fait que vous avez des circonscriptions qui font à peu près la même taille en termes de population. Bon, il y a quand même, ça va du simple au triple, mais en gros, c'est des paquets de population. Mais dans la représentation, elles font pas du tout la même taille. Vous avez des circonscriptions qui sont toutes petites. À Paris, il y en a 17 ou 18, je crois. Et vous avez des circonscriptions qui, de mémoire, font la taille d'un département. Sauf que quand vous représentez le résultat de cette manière-là, vous avez une disparition totale dans le champ visuel des grandes villes et des quartiers très denses. Et c'est assez intéressant parce que ça fait des effets visuels qui ne sont pas à l'avantage de ceux et celles qui ont pu gagner les élections dans ces territoires-là. Et j'ajouterai par ailleurs que pour cette carte des résultats des législatives, donc moi j'en ferai une avec peut-être des circonscriptions à taille égale. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Et puis avec une autre question qui se pose et que je trouve absolument passionnante, qui est la question des couleurs qu'on choisirait pour faire cette carte. Parce que c'était simple avant, c'était rose ou bleu. Hein, en gros, il y avait un peu cette rose-rouge, bleu-bleu foncé. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu le bazar. Alors j'ai regardé un peu ce qui se faisait, j'ai choisi de vous parler de la carte du monde pour le résultat des élections législatives. Vous avez la REM qui est en jaune, alors sorti de nulle part. Hein. Ce jaune, on sent bien qu'au départ, on ne savait pas trop où mettre ça. Ce serait quand même plus simple de mettre ça en bleu, tout le monde comprendrait. Vous avez le RN qui est en kaki. Alors, le RN, c'est passionnant parce que c'est toujours un truc un peu malaisant quand on fait une carte. On ne sait pas trop le mettre de quelle couleur. Alors, c'est soit kaki, soit violet, soit bleu foncé, soit noir. Et pour les présidentielles, c'était passionnant parce qu'avec l'arrivée d'Éric Zemmour, on n'arrivait pas à trouver plus noir que noir. Donc, c'était toujours un vrai problème. Et puis, la nupe. Alors, la nupe, c'est assez rigolo parce que on sent bien qu'il y avait du vert, du rouge. Alors, ça fait du marron, donc c'est pas terrible. Alors du coup, là, le monde a choisi du violet, mais le violet, c'était aussi la couleur du RN. Donc c'est toujours un truc très compliqué à faire. Donc je ferai une carte avec des résultats des élections législatives à l'échelle et avec des couleurs peut-être un peu plus honnêtes.
Merci beaucoup pour cette carte très politique, on l'a compris. Neptice Vert, vous, votre carte du jour, quelle serait-elle ?
Oulala, je pense qu'il y en aurait beaucoup, il y aurait une centaine. Il y aurait par exemple la carte des droits reproductifs dans le monde qui dessinerait par défaut l'état de la démocratie. Il y aurait bien sûr une carte de l'Ukraine qui montrerait à peu près la même chose. Par contre, il y a un sujet qui me préoccupe depuis longtemps et je réaliserai cette carte bientôt, c'est celle de l'accès à l'eau potable. Il faut savoir que 11% de l'humanité n'a pas accès à l'eau potable, que la définition qu'en donne l'OMS est très très large, c'est-à-dire on considère que vous avez accès à l'eau potable si vous pouvez y accéder en moins de 30 minutes. Alors imaginez si vous avez besoin de 29 minutes pour aller chercher votre eau à pied avec une calebasse sur la tête, on considère que vous avez accès à l'eau potable. Ce sera l'eau d'un puits, ce sera l'eau d'une rivière, une eau non contrôlée qui peut mettre votre santé en danger. Et j'aimerais corréler cette donnée-là à celle du temps, justement, du temps nécessaire. Et c'est par référence à une grande géographe, Doreen Massey, une géographe britannique, qui, elle, c'est... a énormément, c'est une théoricienne de la cartographie, elle a imaginé la notion de compression spatio-temporelle, c'est-à-dire pour tous les êtres humains sur Terre, la durée nécessaire à réaliser une action sera différente et vous aurez dans l'espace la finance et le numérique qui voyagent très très vite, vous aurez des personnes très importantes qui voyageront en avion, vous aurez des personnes plus modestes qui voyageront en train et cette femme africaine qui a besoin de plusieurs heures par jour pour transporter l'eau sur sa tête, elle aura enfin accès à une eau douteuse. Voilà, donc cette relativité de la vie humaine, de sa mobilité aussi, a été théorisée par Doreen Massey. Et il me semble que cette carte, elle dira beaucoup de choses de l'état du monde.
Merci, Neptice Vert.
Ouais, voilà, deux belles cartes représentées à la radio, c'était un sacré défi. Patrick nous a rejoint. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour. Je voulais apporter quelques éléments de témoignage. Moi, les cartes m'ont toujours accompagné. Quand j'étais enfant à l'école, dans les années 50, il y avait des grandes cartes murales cartonnées qui étaient suspendues. Il y en avait une avec la France et les départements. On voyait bien la forme de chaque département. Et puis, il y avait la carte du monde où il y avait... les possessions françaises d'une couleur... Je ne sais plus si c'était rose ou bleu. Et puis les possessions anglaises qui étaient de l'autre couleur, rose ou bleu. Et notamment, et on voyait bien que ces deux pays avaient sous leur coupe une bonne partie du monde, en particulier de l'Afrique. Et je trouvais ça, voilà, je pense que ça nourrissait une certaine représentation du monde qui, bien sûr, n'est la plus courte. Aujourd'hui, j'utilise toujours des cartes et c'est même indispensable parce que même si j'ai un GPS, j'ai une confiance assez limitée dans le GPS qui peut parfois me faire tourner en rond, pas souvent mais ça arrive, ou qui peut me proposer des itinéraires abracadabrants. Donc j'aime bien vérifier sur la carte l'itinéraire que me propose le GPS. Voilà. Il y a une autre chose que je trouve très intéressante, c'est les atlas historiques.
Oui.
Moi, j'en ai un et ça me permet de comprendre beaucoup de choses des événements du monde actuel parce qu'on ne vient pas de nulle part. Et puis, je voulais, pour rebondir sur une des dernières interventions que vous avez faites, les couleurs ne sont pas du tout anodines. Et j'ai remarqué que pour les dernières élections, il y a eu des sites qui ont mis le RN en marron, en brun, si vous voulez. Et je trouve ça vraiment, eh ben voilà, pas anodin du tout.
Eh ben merci Patrick pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Jean Leveugue, j'ai l'impression qu'on a tous un rapport assez différent avec les cartes, puisque Patrick se rappelle de ses souvenirs de primaire où voilà, il avait le temps d'observer les cartes accrochées au mur dans la salle de classe.
Oui, bah il y en a partout hein, des cartes. Il y en a partout et il y en a dans les classes, il y en a dans les salons, il y en a dans les toilettes. Voilà, souvent on en trouve un peu partout chez les gens.
Qui vous a fait tomber dans les cartes ?
Non, je crois pas. Ça se fait plus tardivement. Ça se fait plus tardivement. Mais enfin après j'ai quand même fait des études de géographie, donc j'ai quand même l'occasion de m'y mettre pas mal. Non, je pense que ça passe plus par des livres. Deux petites remarques. Bon, la couleur du Fonds national, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. J'invite vraiment les auditeurs, auditrices à aller regarder. C'est un sujet passionnant parce que ça soulève quand même beaucoup de questions. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que la couleur a un fort impact sur la représentation qu'on a des éléments qui sont représentés. Et peut-être juste une remarque sur les cartes anciennes. Et on parlait il y a des études passionnantes, notamment sur la cartographie coloniale et dans l'histoire, etc. Et c'est vraiment le pouvoir. On parlait de pouvoir tout à l'heure. Le pouvoir des cartes, c'est aussi ça. Nommer les choses, c'est les faire exister. Et donc, quand vous avez imprimé à 250 000 exemplaires cette version de la France, cette idée de la France avec tous ces territoires. Lointain, mis de la même couleur, etc. Vous imprimez une idée. Et je trouve que ça montre bien la puissance de la carte et son caractère politique, puisqu'on vous évoquait la notion de frontière encore aujourd'hui. Hein, en 2022, on a des cartes qui sont différentes en fonction des pays qui les produisent, parce que des frontières sont sujets à débat. Et encore plus récemment, vous évoquiez tout à l'heure la guerre en Ukraine. Il y a débat sur le nom qu'il faut donner aux villes. Est-ce qu'on utilise le nom Kiev ou Kiev, la version ukrainienne ou la version russe, etc. Donc tout ça est extrêmement politique, et même sur des sujets qui pourraient paraître extrêmement neutres. Voilà.
Eh bien, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. On se retrouve dans un instant pour poursuivre toutes ces réflexions autour des cartes. On accueillera Paul également au 04 72 38 20 23. Place à la musique avec un groupe qui s'appelle Song Oi Blues, qui vient du désert de Tombouctou au Mali. On écoute et puis on commente juste après.
Anni yaguma mafondogay kanir munde yitosu bakir mir kandagay ir kwai mafondogay kanamu zaro chabirse après la guerre dans mon village chacun fait son petit métier
no de faux. But the grave can get it. Est-ce que cette guerre a pu empêcher nos rivières de couler? Les pêcheurs en sont témoins. Cette guerre n'a pas empêché les champs de fleurir. Ces braves cultivateurs peuvent témoigner ça, hein?
Après la guerre, dans mon village, chacun fait son petit métier.
Remercions le bon Dieu de nous avoir éclairé ce beau jour. Résumons-nous enfin à nos petits métiers.
Soli, 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 soli. Eh ya,
Dana Hozaro Chabiche. Chacun fait son été métier. Anni Yoruba m'a fondé, Kanye Munde Tousse.
Chacun fait son été métier.
Aïe Génar, nous avons un bien gagné ma boule.
C'est vrai.
Ça va vous rester dans la tête, je vous l'assure, toute la journée. Oui, chacun fait son petit métier. Petit métier, justement, c'est le titre de cette chanson qu'on vient d'entendre de ce groupe Song Oi Blues. Ça nous permet de voyager un petit peu. Neftis Zver, je vais peut-être vous faire réagir sur le Mali. Est-ce que vous connaissez des cartes un peu sur le Mali?
J'en connais, j'aimerais aussi en faire. Et ça me fait penser à mon ami Mouroboudou Houssaba, qui est un chercheur qui travaille à l'université de Bâle, qui vient du Mali. Et qui a fait ses études aux États-Unis et qui publie des livres. Il travaille au département d'études africaines. Et il y a notamment un livre qui est « Bagundié Blues », qui est sous-titre « Petite lumière sur la boucle du Niger » et qui est son histoire, mais aussi l'histoire du Mali à partir des années 70. Et il l'aborde d'une façon sensible, c'est-à-dire il parle de la population, des paysannes, des paysans, de leur confrontation aux éléments, des disettes, de l'année Sérélac où on a tellement faim qu'on se nourrit de produits de substitution. Il parle de l'invasion islamiste du pays, il parle des guerres, de la façon dont le pays s'est comporté et continue de se comporter face à cette situation, des problématiques, des plans de développement, par exemple, qui sont tout à fait inopérants, des infrastructures qui n'existent pas. Et il parle de son retour au pays dans les années 2000 avec un groupe de chercheurs de la Columbia. Et peut constater la différence. Et à la fin de l'ouvrage, il y a des cartes, des simples cartes de localisation. Et je me dis que j'aimerais m'asseoir quelques heures avec lui. Je l'ai fait récemment avec des chauffeurs de taxi à Berlin et ça a très bien marché. Et lui dire, voilà, sur ce papier, tu vas nous dessiner la carte de ton histoire. Donc, c'est à la fois un trajet et sur ce trajet, se développe une fleur d'expérience personnelle de l'espace. Parce qu'on parlait des frontières tout à l'heure et il y a cette notion, ces deux notions que moi j'oppose, espace et territoire. Le territoire, c'est cette idée qu'on va pouvoir tracer une ligne sur la carte et qu'on va l'appliquer au territoire. Et l'espace, c'est l'espace vécu par les êtres humains. Et aucune ligne artificielle ne pourra venir la couper, à moins d'énormes souffrances humaines. Et le Mali, il est un exemple de ce pays martyrisé par des logiques tout à fait exogènes à son économie, à sa vie culturelle et politique. Voilà. Donc oui, une carte sensible du Mali qui montre cet autre aspect, nous qui sommes tellement martyrisés mentalement par toutes ces guerres qui se rapprochent, c'est ce qui nous touche pour l'Ukraine. Hein. Faut être honnête, ces guerres, elles existent aussi partout. Et tout le monde pense à une troisième guerre mondiale, mais on peut tuer les gens à petit feu et on peut les tuer par des actes de violence médiatisés. Oui.
On retourne. Oui, Stéphanie.
Juste, je voulais faire réagir Jean Leveugle sur la chanson sur le Mali. Chacun fait son petit métier. Géographe, cartographe, ça aussi, c'est un petit métier.
Alors sur le, j'écoutais puis je regardais en même temps d'où venait donc ce groupe, le Mali. Ouais, c'est du coup dans le prisme qui est le mien et qui est donc dans mon bouquin, je dis en fait plus les pays se rapprochent de l'équateur, le Mali n'en est pas très loin, plus ce sont les grands perdants de la projection de Mercator dont je parle et qui est un peu à la base de je pense là d'une énorme découverte pour beaucoup de gens, qui est que c'est sur cette histoire de projection dont je parlais tout à l'heure et sur leurs effets non pas pervers parce que c'est pas du tout le sujet, mais sur leurs effets sur la représentation de la réalité, et le Mali et l'Afrique en particulier parce qu'elle est vraiment son centre et sur l'équateur sont les grands perdants de cette fameuse projection qu'on utilise quotidiennement ou presque, et qui était utilisée encore par Google Maps hein, jusqu'en 2019, c'est assez tardif. et qui a cet effet pervers qui fait que tous les plus les pays qui sont représentés s'éloignent de l'équateur, plus ils sont grands. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont près de l'équateur sont petits par rapport aux autres. Et c'est vrai que sur la question du continent africain, je trouve passionnant de comparer la taille a priori du continent sur un globe et sur une carte. Sur un globe, on se rend compte de l'immensité de ce territoire. Là où sur une carte, ça semble un peu plus résiduel, notamment par rapport à tous ces grands pays du Nord sur les projections de Mercator, voilà, avec le Canada, le Groenland, la Russie, etc.
On retourne au standard où nous attend Paul au 04 72 38 20 23. Bonjour Paul.
Bonjour. Oui, alors j'aime beaucoup les cartes. J'en consulte encore plutôt que le GPS. Mais surtout parce que quand j'étais petit, j'étais à l'école Montessori et dès 5 ans jusqu'à 13 ans, on faisait nos cartes en terre glaise sur une grande table. On découpait les mers, on traçait les rivières, on mettait de la terre pour visualiser les montagnes, les régions. On faisait des recherches pour voir de notre carte à la réalité scientifique dans les livres. Et on était juste, et puis voilà. Et c'est du coup, ça nous donnait, comment dire, une passion pour comment construire les... Alors, on faisait des cartes de France, on faisait aussi des cartes... On mettait du temps, hein, parce qu'une carte de France, on était presque une semaine à plusieurs heures par jour à la fabriquer. Et ça nous permettait d'avoir une vision, une attention, une recherche de tracer des fleuves, ouais. quelles étaient les rivières qui allaient dedans, les villes qui traversaient, les villes qui étaient en place, leur importance.
Voilà. Et de manière assez ludique, on l'entend, Paul, et j'aimerais compléter votre témoignage avec celui de Thomas. Thomas, c'est un auditeur qui a 14 ans, il vient de nous envoyer un mail, et il nous dit « Avec des amis, je me suis même lancé dans la création d'un monde imaginaire et de ses cartes il y a un an. Nous avons donc dessiné un atlas de ce monde sur une vingtaine de pages, ainsi que d'autres cartes plus précises comme celle des cartes des villes importantes. Nous sommes beaucoup amusé sur ce projet. Jean Leveugle, faire des cartes, est-ce que c'est ludique pour vous, même les apprendre d'ailleurs ?
Ah oui, alors, faire des cartes, c'est ludique, et je confirme que faire des cartes imaginaires, c'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant parce qu'on a un pouvoir presque divin, c'est-à-dire qu'il vous suffit de faire un trait pour dessiner une côte, et ça y est, la côte existe. Et ça, je trouve ça absolument, absolument génial. Et ça permet, il y a des gens qui font ça très bien de créer avec des cartes plus ou moins réalistes entre guillemets, en tout cas des cartes imaginaires qui sont absolument passionnantes parce qu'elles invitent à aller sur des territoires qu'on ne connaît pas du tout, sur lesquels on n'a pas d'a priori. Et ce qui m'amuse toujours moi quand je vois ces cartes là, c'est d'imaginer quelles peuvent être les enjeux territoriaux. Mais alors allez, on passe au second stade de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple représentation géographique au sens le plus ancien du terme, c'est-à-dire les frontières, les reliefs, les mers et les terres, de se dire quels peuvent être les enjeux, alors politiques, militaires, économiques, etc. Je trouve ça toujours assez rigolo comme expérience. Ouais.
Neptis Vert, vous aussi, vous êtes adepte des cartes imaginaires ?
Ah oui, tout à fait. J'aurais même envie de voir les travaux de ces jeunes personnes et de les publier sur Vision Carto, par exemple, sur notre site. Nous faisons cela assez souvent pour des cartes de graphique par exemple ou d'étudiante. Oui, la carte a une dimension ludique et je pense aux ateliers de cartographie que nous proposons. On a plaisir à faire des cartes et ça met le doigt sur une dimension de la cartographie radicale, c'est sa dimension expérimentale. On va se permettre d'utiliser la terre glaise, oui, d'utiliser des fils, du tissu, vous pouvez faire des cartes en tissu et vous libérez votre créativité. Et cette dimension, bien sûr, elle réintroduit l'humain sur la carte, mais elle va aussi ouvrir votre esprit à la fantaisie, à tout ce qui est occulté par un discours hégémonique qui écrase complètement tout ce qui ne serait pas valorisable, quantifiable, marchandable. Voilà. Et c'est un enrichissement donc pour la cartographie que de la laisser aux mains de personnes qui ne sont pas forcément expertes et formatées à une certaine technique scientifique, entre guillemets, de la cartographie. Oui, allons-y, faisons-le.
Finalement, Neptis... Finalement, des petits verres, quel est le pouvoir de la carte pour vous ?
Alors, la carte, c'est une image, il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes tributaires de la carte, c'est la seule représentation du monde, de co-vision du monde que nous ayons. Nous en avons besoin pour nous déplacer, pour localiser. Elles ont toujours existé. Elles n'ont pas toujours eu les formes de cette carte de la culture occidentale qui trahit une acception de l'espace euclidien, si vous voulez. Les éléments sont espacés d'une certaine distance, on peut le mesurer. La triangulation va le permettre de reporter le plus précisément possible sur la carte. Il y a d'autres cartes, des cartes qui ne laissent pas de traces, des cartes chantées, des cartes rêvées, des cartes tissées, des cartes marchées, des cartes dessinées dans le sable. Et toute cette culture, elle n'a pas été mise en avant. Elle a été écrasée par celle de la cartographie occidentale qui se veut scientifique. Et quelque part, nous revenons à cela. En tout cas, nous ouvrons nos expériences à cela. Donc, oui, il faut. Je pense que c'est un enrichissement d'aller dans cette direction.
Jean Leveugle, il nous faut retrouver le pouvoir, comprendre le pouvoir des cartes.
Je rejoins tout à fait Neptis, puisque donc la carte c'est une image, la carte c'est un message, et c'est un message qui par ailleurs est. Enfin, la carte, c'est quelque chose d'un petit peu pernicieux parce que ça paraît scientifique, ça se veut scientifique, ouais. Ça a tous les atours de quelque chose d'extrêmement sérieux et rigoureux. Bon, du coup, je pense avoir suffisamment démontré dans mon bouquin qu'on pouvait un peu jouer avec ça, tout ce qui se présente sous le signe de cette science ou de cette rigueur masque en réalité une succession de choix qui sont des choix qui ont des conséquences majeures en fait sur le sens du message qui veut être qui est utilisé.
C'est-à-dire que c'est bien plus qu'un dessin, une carte, ça, elle a un pouvoir d'influencer le réel.
Oh oui, alors là, pour moi il y a aucun doute là-dessus. Elle a très certainement un pouvoir d'influencer le réel. J'évoquais les projections tout à l'heure. J'évoquais la projection de Mercator. Je trouve que c'est un exemple qui est très simple et qui en même temps est très clair. Cette fameuse projection de Mercator nous donne une vision totalement faussée de la entre guillemets. Hein, je le dis faussée, mais pas fausse, mais faussée de la réalité. En exagérant la taille de certains espaces et d'autres. Et puis j'ajouterais, en préparant cette émission, je me souviens d'une réflexion que je me suis faite il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais eu alors ça devait être je crois qu'au programme du lycée on a la guerre froide, je me souviens de cartes très précises avec les batteries de missiles en Europe, les batteries de missiles en URSS, etc. Et puis d'oublier, en tout cas de pas avoir le souvenir d'avoir vu des cartes qui montraient la proximité de l'URSS et des États-Unis par le haut, c'est-à-dire par le pôle Nord, avec des cartes, des projections azimutales qui en réalité montrent que ces deux territoires sont extrêmement proches, là où sur un plan plus traditionnel, on a l'impression qu'ils sont aux antipodes, n'est-ce pas ?
Et qu'on est au milieu.
Exactement. On est toujours au milieu, de manière générale.
Neptis Vert, une réaction.
Oui, justement par rapport au Canada, à l'Alaska et son opposition par le pôle Nord, sa confrontation à l'ancienne Union soviétique, vous avez des personnes, parmi les premières personnes, qui vont utiliser la carte radicale pour en tant qu'administration de la preuve devant les tribunaux. Ce sont les Nunavut. Les Nunavut, ce sont des personnes prises dans la guerre froide, confrontées à l'ennemi des États-Unis, qui vont perdre tout leur territoire de chasse, de vie, qui vont être introduit de force dans un système économique qui n'est pas le nôtre. Que vont faire ces personnes? Elles vont produire des cartes de leur territoire, de l'espace vécu, devant les tribunaux, et obtenir la création de leur territoire. Donc la cartographie radicale, quelque part, elle est un moment de création collaborative entre des personnes qui ont une cause à défendre, et elle va avoir des effets. Donc elle a un effet d'agentivation pour les gens qui s'en emparent. Elle va pouvoir changer justement cette réalité, la donne économique, la donne sociale.
La carte a du pouvoir.
Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Melchior, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous.
Bonjour, on vous écoute.
Alors, moi, je suis d'une part un auditeur quasi quotidien de votre émission et puis un passionné des cartes. Je pourrais passer des heures à les admirer. Pour moi, le summum du plaisir, c'est les cartes en relief qui sont imprimées en trois dimensions. Elles sont pas toujours faciles à trouver, d'ailleurs. Mais c'est pas mon sujet ce matin. Ce que j'aimerais, c'est demander aux intervenants s'ils pouvaient nous expliquer un peu les techniques ou les réflexions pour élaborer des techniques de façon à représenter des nuances sur les cartes. Alors, tout à l'heure, on a parlé des couleurs. Parfois, il y a l'épaisseur des traits qui manifeste aussi différentes nuances, ou le rapprochement des courbes de niveau qui montre la pente d'un terrain, par exemple. Donc, quelles sont les techniques ou des réflexions pour des nouvelles techniques? Et puis, j'ai une deuxième question, c'est aussi comment ils se saisissent de la représentation du facteur temps. Et ça, c'est pas simple, parce que quand on fait une carte, et je pense qu'elle est figée au moment où on l'a fait, mais l'évolution d'une situation, comment on la représente, que c'est une vraie difficulté. Des exemples comme par exemple l'exode rural des campagnes vers les villes ou le mouvement inverse, c'est des choses où il y a un facteur temps. Comment on représente ça? Voilà. Quelle technique et quelle réflexion pour des nouvelles techniques?
Et des questions aussi très techniques. Merci beaucoup Frédéric pour votre appel. Jean Leveugle, je vous donne la parole sur les nuances. C'était la première partie de la question de Frédéric.
Plus de billes sur la deuxième, mais
la deuxième alors si vous voulez.
Je commence. Non, sur le facteur temps. On va parler des nuances après. Sur le facteur temps, c'est vrai qu'il y a cette espèce de curiosité de la carte qui est a priori un objet figé à l'instant T, et que donc il y a toute cette difficulté sur les cartes, on va dire plus traditionnelles, à représenter une évolution dans le temps. Et je trouve cette espèce de paradoxe intéressant. Non, sur les nuances. Que ce soit, vous avez évoqué les hachures, alors c'est vrai qu'on en utilise plus beaucoup, mais c'est intéressant de voir l'évolution de ces techniques-là, et sachant que les hachures, on évoquait la carte d'état-major tout à l'heure, tout début, ont été extrêmement codifiées, extrêmement précises, c'est tout à fait intéressant de voir les légendes qu'il pouvait y avoir pour être le plus exact possible. C'est vrai qu'on a un peu abandonné les hachures, la couleur a pris quand même beaucoup, beaucoup d'importance, je pense pour des raisons assez simples, hein, c'est qu'il est plus facile et moins cher de les utiliser, mais voilà, j'ai pas de piste, je vous avoue, sur ce qui arriverait, quelle est la prochaine étape, voilà. Mais...
Neptisver, vous avez des pistes, vous?
Je vous renverrai à Bertin, à la sémiologie graphique de Bertin, qui illustre parfaitement toutes ces techniques. Donc, c'est 1967-68. Et si vous revenez au crayon, vous revenez à ces règles-là, qui sont des règles d'or qu'il ne faut pas jeter par-dessus bord, qu'il faut s'approprier pour pouvoir après en jouer, les décliner, peut-être les pervertir un peu. Mais oui, il y a des normes qui sont les normes de la cognition, de votre perception visuelle de l'image. Et c'est assez facile à retrouver, je pense. Et sur la deuxième, sur le deuxième propos que je viens d'oublier, qui était...
C'était sur le rapport au temps.
Par rapport au temps. Alors oui, comme dit, la carte va représenter le temps. Vous avez plusieurs façons de le représenter. Vous pouvez avoir une collection de cartes. Vous pouvez aussi, et là j'en verrai aux travaux de la Datar des années 80, vous avez une grande géographe cartographe qui est Anne Bailly, qui elle fait partie de ce groupe de personnes qui vont innover en matière de représentation, notamment des développements. Je pense à sa carte des oursins qui va projeter, c'est une carte projective, qui montre comment, à une distance de quelques décennies, les villes françaises pourront déployer leur activité et leurs infrastructures selon qu'elles sont rurales, des grands centres urbains ou intermédiaires. Donc, si vous autorisez la fantaisie sémiologique, graphique, je pense que vous obtiendrez des résultats assez satisfaisants.
Laissez cours à son imagination. On a encore un petit peu de temps, Melchior?
Pas
non, c'est
beaucoup,
la fin,
hein.
C'est fini. Ouais. Je voulais leur demander de dessiner la carte des vacances, on n'a pas le temps?
Bah allez-y, c'est vous avez posé la question.
Allez, là, votre carte des vacances, vous avez moins d'une minute chacun. Qu'est-ce qui commence? Neptisver, très très rapidement, si vous deviez dessiner une carte des vacances.
J'ai 4 enfants, qui sont grands à présent. Je leur donnerai un carnet à chacune et je leur dirai, voilà, nous partons à tel endroit, vous allez dessiner la carte de ce que nous faisons. Et exactement pour Mohomodou Moussouba, je leur dirai, ben, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, mettez-le sur la carte. Et 10 ans après, nous consulterons les carnets.
Jean Leveur, votre carte des vacances?
Alors, moi, ce serait une carte sur, qui part de l'expression « j'ai fait ». Vous savez, quand on voyage, on entend des gens dire « j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait ». Donc, je ferais une carte qui s'appellerait « Thomas a fait le Portugal » et de montrer le trajet de Thomas, en réalité, sur le Portugal, avec probablement ce qu'il a pu voir, c'est-à-dire un rayon de 2 km pour montrer l'absurdité de l'expression.
D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos livres, hein, Jean Leveugle, Curiosité cartographique. C'est chez Autrement. Et puis Neptis Vert, hein, Cartographie radicale. Alors c'est une double maison d'édition. Vous allez nous la redonner. Dominique Carré et La Découverte pour l'éditeur de Cartographie radicale Neptis Vert. Merci beaucoup à tous les deux.
Et merci Stéphanie Gallet. Bonnes vacances.
Merci,
enfin, pas tout de suite, mais.
Je n'ai pas encore tout à fait terminé. Hein.
Mais nous, c'était notre dernière avant la rentrée, bien sûr. Mais merci pour cette belle émission sur les cartes. On va continuer dans un instant. Alors, on va quitter les routes. On va se diriger plutôt vers les sentiers de randonnée. Je suis sûr que vous allez en faire pendant les vacances. Les sentiers de randonnée qui sont entretenus et il y a du balisage également. On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite.